Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et aujourd'hui pour commencer je vais vous parler d'une publication que j'ai reçue, que nous avons reçue par la poste. Rien ne se perd, numéro 14, consacré à Pascal qui est malheureusement décédé il y a trois ans et qui est le fils de GB qui s'appelle donc Pascal Blondeau. Et GB a une exposition actuellement à la Bibliothèque nationale que nous vous conseillons fortement. Et cette exposition est organisée par Alexandre Devaux. Et après le décès de Pascal, nous avions consacré une émission d'hommage à Pascal à laquelle participait Alexandre Devaux. Et aussi Paco Thielmont qui a écrit la préface de cette publication. Donc je reprends, nous avons reçu Dessin funambule de Pascal dans la collection qui est le numéro 14 de la collection Rien ne se perd. Et donc ce livre comporte une préface de Paco Thielmont et a été édité par Paco Thielmont et Fabienne Lopez. Et il était aussi venu faire une émission de son vivant, Pascal, une émission très touchante, magnifique. Et il habitait dans la forêt de Fontainebleau. Et pour venir à la rue Montorgueil où nous étions, il avait dormi à l'hôtel La Nation. Ça m'avait beaucoup touché, je trouvais ça très très mignon. J'avais l'impression d'interviewer Bukowski vu qu'il avait dormi à l'hôtel. Et quoi d'autre? Oui. Et donc dans les volumes, c'est le 14e volume, donc il y a 13 autres volumes. Et ces volumes sont sur Olivia Clavel, Kiki Picasso, Placide, Muzo, Yoko, et sur Capitaine Caverne. Et alors c'est très amusant parce que Capitaine Caverne va avoir une exposition le 17 juillet qui ouvre à 17h. Au Baron Rouge, qui était un bistrot qui était à la place Aligre, où Aligre FM a commencé il y a 45 ans. Donc le monde est petit, donc vous pouvez vous renseigner, je vous mettrai ça sur la page podcast. Le numéro 14 de Rien ne se perd sur Pascal, Dessin funambule avec préface de Paco Thielmont et une exposition de Capitaine Caverne à 17h le 17 juillet au Baron Rouge. Et donc notre autre sujet du jour est Vera Molnar, qui est une artiste qui est décédée récemment à l'âge de 98 ans, qui a eu 99, qui a eu une magnifique exposition rétrospective à Beaubourg il y a peu de temps. Et là, nous allons en parler parce qu'il a une exposition à Dunkerque pendant tout l'été. Alors, je suis avec Vincent Babi et Eléa Sicre. Et donc, qui c'est qui veut commencer à nous faire un petit historique sur Vera Molnar qui est née en 1924
Je peux faire très vite, alors, à ce moment-là, parce que c'est une vie très longue et très riche. Mais, donc, vous venez de le dire, elle naît en 24, elle arrive à Paris en 47, en Hongrie, pour faire rapidement, elle a suivi des cours aux Beaux-Arts, elle est sortie avec son diplôme. Elle y a rencontré un homme, François Molnar, qui deviendra son mari. Donc ils viennent tous les deux en France en 47. En 47, ils rencontrent absolument tout le monde à Paris.
Il y a aussi un événement qui m'a marqué, son école était réac, académie, classique. Ouais. Et brusquement, en 46, l'école se transforme totalement. Et il y a entre autres un prof de français qui débarque dans l'école et qui révolutionne l'école. Et c'est ce qui les motive pour venir à Paris.
Exactement. C'est lui, par exemple, qui lui parle de Joyce. On évoquait la chose tout à l'heure. Et c'est vraiment le grand courant
d'air. Le passeur.
Après les années abominables d'occupation qu'on connaît. Mais je reviens à Paris. et à Paris, elle rencontre absolument tout le monde. De Brancusi à Sonia Delaunay. Pour dire juste les grands noms, mais Sonia Delaunay qui l'encourage, et vraiment ça dynamisera en fait ces années de jeunesse. Et puis après, elle travaille dans ce style qu'on appelle abstrait géométrique, pour le dire vite, avec vraiment une radicalité incroyable. En plus, elle ne veut pas montrer son travail, elle travaille de manière laborantine, comme ça, à l'écart du monde marchand qu'elle évite. Et puis, très vite, elle met au point un système pour fabriquer ses œuvres qu'elle appellera la machine imaginaire. Et pendant 10 ans, les années 59-69, grosso modo. Elle donne des... Elle est proto-conceptuelle, donc elle se donne des instructions et elle réalise ensuite ces instructions. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste après, dès 68, elle rencontre les grosses machines, les gros ordinateurs, et elle devient la pionnière en France de l'art assisté par ordinateur, comme on disait à l'époque, AAO. Et elle fait les premières œuvres avec un ordi. Mais tout le monde s'en fout totalement, ne veut pas voir. Vera disait, c'est comme si les gens avaient une maladie des yeux dès qu'ils mettaient là, ils détournaient la tête. C'était inconcevable qu'on puisse demander à un ordinateur de l'assistant d'un artiste. Et elle a travaillé avec ce matériau vraiment pendant 20 ans beaucoup, 68-88. Et puis après, c'est un jeu entre la main et la machine. Et elle délaisse parfois la machine pour faire des collages, pour faire des installations, pour faire des peintures.
On est dans un proto-IA en fait.
Exactement, et elle a fait à la fin de sa vie des œuvres avec l'IA, parce qu'elle rencontrait, elle adorait travailler en collaboration avec de jeunes, plus jeunes artistes. Donc elle a fait une œuvre en collaboration avec Horace Vettier de son nom d'artiste, mais Paul Mougineau de son vrai nom. Et tous les deux, dans les dernières années, ils ont fait une œuvre à partir d'une gravure de Dürer, qu'ils ont réinterprétée. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on pourrait voir dans la gravure La Mélancolia de Dürer si on se place de l'autre côté du polyèdre qui est représenté. Et donc ça s'appelle De l'autre côté du polyèdre. Et à eux deux, ils ont fabriqué 16 simili-gravures de qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ça de l'autre côté du polyèdre, avec l'IA, avec un système d'IA.
Et donc il y a déjà, mais on y reviendra après, il y a aussi une formule mathématique dans La Mélancolie sur laquelle elle a travaillé. Oui. Mais on devrait peut-être parler du mari. Et donc lui, il va devenir professeur, il va abandonner l'art et il est dans l'informatique aussi.
Tout à fait. Au début, il a la
Qu'est-ce qu'il fait en fait lui ?
Il a la même formation aux Beaux-Arts, mais alors lui, il est beaucoup, beaucoup plus radical que Vera. Donc il arrête définitivement de faire de l'art très vite dans les années 50 pour se consacrer à la science. À l'époque, son domaine s'appelait la psychophysiologie de l'art. Aujourd'hui, c'est un domaine qui a disparu, mais à l'époque, il en était le spécialiste en France. Il avait écrit dans l'Encyclopédie Universaliste l'article concernant ça. Et il s'intéressait beaucoup, en fait, à beaucoup de choses en matière de psychologie et du trajet du regard dans l'œuvre. En fait, il mesurait par des systèmes d'oculométrie assez compliqués le trajet du regard dans une œuvre. Et il espérait trouver le Saint Graal de qu'est-ce qui fait que le regard construit une œuvre. Et scientifiquement, il a écrit beaucoup de papiers là-dessus. Et il a aussi enseigné et il a créé le département des sciences de l'art à Paris. C'est à lui qu'on le doit.
C'est amusant parce que quand j'ai fini le catalogue de Beaubourg sur Vera, Molnar, j'ai pensé à une toile qui serait typique pour moi et j'ai pensé à une toile qui est dans la Grande Galerie au Louvre, qui est le verrou de Fragonard. Mmh. Je me suis demandé si je fais un Molnar figuratif, sur quoi est-ce que je tombe ? Et donc, c'est effectivement une diagonale extrêmement dynamique avec un rectangle statique. Et en plus, il y a un débat contemporain pour savoir si c'est un viol ou pas. Ouais. Donc, on est vraiment dans une chose. Mais on a à l'os, et ça marche aussi pour Hubert Robert, ça marche pour tous les peintres qui vont à Rome français à la fin du XVIIIe siècle. Ils introduisent cette espèce de virtuosité de la ligne, déjà. Donc, il n'y a qu'à penser à Poussin sur le siècle précédent, voir comment c'est composé. On a comme ça une continuité. Et la toile a été faite en 1777. Et je trouve que c'est un chiffre qui swing aussi beaucoup. Mmh. Et quand on regarde Molnar, on pense, enfin, quand on a aussi des connaissances un peu en Suisse, tout ça, à la typo. À tout ce qui est mis en page, tout ce qui est typo, à la grosseur, à des graisses. Donc on est dans quelque chose. Mais on ne pense pas aux arts appliqués comme cette belle démonstration qu'ils ont fait à Beaubourg autour de Vasarely. Quand ils ont fait l'expo Vasarely, l'extension art appliqué était vraiment évidente et très très bien montrée en fait. Je sais pas. C'est une couverture de livre, un truc comme ça, mais il n'y a pas du tout ce côté-là. Mm. Hein, c'est plutôt le swing.
Là, il y a tellement de sujets,
je noie le truc.
Les lignes, elle a beaucoup étudié ça. Effectivement, dans les œuvres anciennes, elle, c'était Chardin qui l'a. Enfin, elle a regardé comment Cézanne mettait ses baigneuses et elle a fait des tests.
Mais ça marche bien avec, la montagne de Cézanne.
Avec la
Sainte Victoire, ça marche très bien.
Tout à fait. Ça me faisait penser au tableau justement de Chardin, où y a, c'est une nature morte dont je ne me souviens plus le titre, mais avec une pipe au premier plan qui est l'élément embrayeur qui donne la perspective. Et elle a fait plein d'essais pour surdéplacer la ligne, pour revenir à la fin en disant non, Chardin, on ne peut pas la mettre ailleurs, c'est parfait.
Ben, revenons à sa biographie quand même. Donc, à 10 ans de non-participation au monde, d'expérimentation.
Jusque tard, dans les années 80, alors qu'elle est née en 24, donc je ne ferai pas le calcul, mais ça fait beaucoup de temps sans être dans le milieu marchand et tout ça. Et il y a vraiment au tout début des années 80, elle a une expo à Londres, parce que ce sont des gens qui s'intéressent à l'informatique finalement. Qui font,
c'est ça Londres.
C'est les proto-geeks, on dira. Et après, vraiment, sa reconnaissance est très tardive. Il faut attendre les années 90, milieu des années 90. Et surtout les années 2000, où là, les Américains, comme d'habitude, prennent en charge la chose et décident que c'est la papesse de l'art assisté par ordinateur. Donc maintenant, on parle de generative art, donc d'art génératif, c'est le nouveau terme. Et maintenant, elle est connue d'abord par ça.
Et donc, elle a une certaine notoriété aux États-Unis.
Oui. Elle a été exposée deux fois au MoMA, aussi dans d'autres grands musées. Elle a des collectionneurs importants maintenant aux États-Unis. Et donc, c'est venu de là. Mais des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'elle est connue par l'informatique, mais son œuvre est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire qu'il y a... Ce qu'elle a fait aux années 50-60, avec une abstraction très radicale, c'est intéressant. La machine imaginaire... C'est ce que vous aviez évoqué sur les lettres. C'est extraordinaire. Elle a travaillé avec des opérations sur les lettres, les U, les L, les T, avec des rotations comme ça.
Oui, elle travaille aussi sur l'écriture de sa mère.
Sur l'écriture également.
Elle garde un rapport. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, parle de... Elle a un énorme journal intime et il y a quelqu'un qui parle de la poésie qui est dans son journal intime. Donc on a... C'est pas un mot qu'on utilise fréquemment quand on parle d'informatique.
Tout à fait.
Un qualificatif.
Mais les journaux intimes, c'est ce qu'elle préférait vraiment de manière absolue dans son travail. Elle les tient dès 76. Elle a regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais de 76 jusqu'à presque la fin de sa vie, où elle a décidé de les arrêter parce que son écriture lui convenait plus. Et elle ne pouvait plus les faire de manière plaisante pour elle. Donc elle a arrêté, je pense, à 98 ans. Et tous ces journaux intimes sont partis, maintenant sont conservés par le Centre Pompidou, enfin à l'ABK, la Bibliothèque Kandinsky, avec mission de les numériser pour les rendre publics dès qu'ils pourront. Donc je pense que là, en fermant les locaux, ils vont avoir du temps, ils vont prendre des scanners.
Ils viennent de la réouvrir à côté de Bercy, la bibliothèque.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui,
j'ai vu un article.
C'est aujourd'hui.
Et les journaux étaient présentés à la rétrospective aussi à Pompidou,
oui,
les journaux intimes.
Dans les vitrines, ouais.
Et qui était quand même très instructif aussi pour voir tout le processus de création, les interactions.
C'est là que ça se passe, en fait.
C'est ça.
Ouais. Mais d'ailleurs, ce que Eléa a mis dans l'exposition de Dunkerque, c'est aussi des documents.
Ouais.
Je ne sais pas si on anticipe trop vite sur ce qu'on veut dire après. Mais c'est des documents qui, en renseignant sur l'œuvre, disent beaucoup.
On décrira l'exposition en deuxième partie. Et donc, il y a cette rencontre avec François Morlaix qui est très importante.
Très importante.
Non,
oui, oui,
qui la socialise ou il y a une espèce d'effet de...
Non, alors, non, c'est pire.
Un partage,
c'est pire,
il l'enfonce.
Pas du tout, c'est-à-dire qu'il se rencontre, mais Morlaix, c'est un chef d'entreprise à Cholet. Il a repris la boîte familiale, Morlaix-Guérino, qui fabrique des landaus et des petites voitures d'enfants. Et lui, il faut qu'il bosse, hein. Il faut qu'il fasse tourner l'usine. Donc il est peintre du dimanche à l'époque. Et pendant longtemps, lui aussi, il n'a pas de reconnaissance. De toute façon, ça n'intéresse personne ce que font Vera et François dans ces années-là. Et du coup, elle va le voir à Cholet. Et lui, déteste le snobisme parisien, ce système. Et de toute façon, quand il tente d'aller voir Denise René pour lui montrer ce fait, il se fait jeter. Et étonnamment, Vera aussi n'a jamais été prise par la galerie Denise René, alors qu'elle était très amie avec Vasarely, etc. Donc il y a le même mécanisme pour eux, ils retrouvent cette amitié en ayant finalement le même process vis-à-vis du marché, des galeries, etc.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, donc on est dans une impasse, quoi. Ça va. Mais son devenir, sa fortune critique est à venir. C'est votre travail, c'est ce que vous avez fait.
Bah, j'essaie depuis 30 ans, un petit peu.
Voilà, vous créez un univers oratique autour de...
Ouais, c'est quand même établi avec le temps, depuis les années 2000, non ? Il y a eu quand même des grosses expositions, un peu rétrospectives.
Il y a eu celle de Rouen, dont le commissaire général était Sylvain Amic, qui est maintenant directeur d'Orsay. On a fait une très très grosse expo, mais les gens viennent moins à Rouen qu'à Paris. On avait accroché 400-500 œuvres.
Hein. J'étais au vernissage à Paris, bon, on peut pas faire mieux, mais c'est Beaubourg. Il y a un effet Beaubourg.
Ouais, c'est l'effet Beaubourg.
Il y a plusieurs expos en même temps.
En face d'Hervé Dirosa.
En face d'Hervé, tout à fait.
Ouais. Étrange mélange.
Non, mais ça marchait pas si mal avec Hervé en face, qui est un magnifique peintre. Et je pense qu'il était content d'être en face de Vert. Enfin, il y avait un équilibre finalement qui s'était créé avec ces deux expos.
Ça manquait de construction, le Hervé Dirosa, personnellement. Je trouve que ça manquait beaucoup de dynamisme et de construction.
Mais il faut
l'inviter. Je pense qu'il est dans une impasse, mais avec son art humble de pauvre.
Ah non, moi je crois pas. Ah non, non.
Son musée modeste.
Lui n'est pas dans l'impasse.
C'est un baratineur. Mais le destin des baratineurs, c'est d'être voué à disparaître. Mais ils ont un gros entre-gens de leur vivant. On a, au contraire de Vera, qui est à côté sacrificiel à l'art, comme ça, qui est une. Et qui revisite les classiques les uns après les autres. Elle va faire son Mondrian, essayer de voir ce que ça donne, etc.
Bah, elle fait ce que j'ai appelé un jour des hommages d'hommages. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rend hommage, elle casse un petit peu le système de la personne à qui elle rend hommage. Donc, Mondrian, elle va faire un Mondrian symétrique et inversé. Le truc impossible, le truc interdit.
Il y a de la malice, donc c'est un petit peu que la même chose que la poésie. Il y a chaque fois un léger déplacement à... on va dire, à Alice des Pays des Merveilles, mais abstrait. Alice en abstrait. Et donc, on peut faire l'inventaire des termes qui lui sont attribués. Constructiviste, ça veut dire quoi?
Alors ça, c'est la guerre entre la terminologie abstrait, géométrique, constructiviste ou concret.
Concret, oui, c'est ce que j'ai noté.
On s'en sortira jamais.
Géométrique.
Construit aussi.
Et il y a un coup de force avec le conceptuel aussi.
Avec le conceptuel. Ouais. Bah, elle disait...
Et expressionniste.
L'être de ma mère.
Un peu moins.
Beaucoup. Elle disait, je suis entre les trois cons. Les conceptuels, les concrets et les computers.
Et art génératif.
Computer. C'était l'art génératif, c'était l'ordi.
Et il y a aussi le all-over.
Et le all-over qui
fait un peu art appliqué, on revient à l'art appliqué.
Tout à fait, oui. Elle n'aimait pas être classifiée, de toute façon. Elle disait toujours, j'ai quitté... tous les partis, dont le Parti communiste, où elle a été très très peu affiliée quand il y a eu le procès Rachke. Et puis après, j'ai été scout, je suis parti des scouts, j'ai quitté le parti, je devais faire du piano, j'ai fait de la peinture. Enfin, elle était affiliée à aucun parti, à aucune obédience. Et elle détestait aussi toute assimilation, tout essentialisme. Quand elle était dans des expos d'artistes femmes, elle a adoré faire les premières. Mais au bout de 10 ans, elle a dit, on va me caser à chaque fois dans des expos comme femme.
D'origine hongroise.
Et d'origine hongroise. Après, quand c'était les Hongrois, elle aimait bien qu'on regarde son travail pour ce qu'il est. Mmh. Et pas parce que c'est originaire de Hongrie ou parce que c'est une femme. Mais bon.
Absolument. Et donc, abstraction froide dans les catégories.
Ça, je laisse chacun juger. Moi, je trouve que c'est plutôt chaud, ne serait-ce que dans les choix chromatiques, son amour pour la couleur rouge ou certaines teintes qui sont... Alors, scientifiquement, ça n'existe pas, jouer froid dans la couleur, mais psychologiquement, il y a quand même des choses qui résonnent.
Mais c'est vrai qu'il y avait ce texte de... Comment il s'appelle, mais qui est passé par Fanal aussi, Karl Gerstner, sur le Kaltkunst, qui revient un peu sur toute l'origine art concret, etc.
On peut faire référence aussi à Jean-Sébastien Bach, sur le... Il y a un travail, là, sur les variations Goldberg. C'est quand même très bizarre, les variations Goldberg, où ça situe dans l'histoire de la musique, est-ce que c'est, et aussi à propos de fortune critique, quasiment 150 ans sans qu'on le rejoue. C'est Mendelssohn qui le fait revenir, donc on peut imaginer évidemment qu'on peut trouver un abstrait.
Mais là, c'est aussi
du début du 18e.
C'est toute la clé de l'œuvre de Vera. Parce que les diabellies, les variations en général, et surtout la musique, tout part de là. Je suis allé un peu vite tout à l'heure pour présenter son travail informatique.
On recommence.
Mais, on recommence à zéro. C'est toujours les musiciens, ce sont toujours les musiciens qui tirent les premiers. Donc en fait, les premiers à utiliser l'ordinateur dans l'art, c'est ses amis. Mmh. Enfin, ceux qui deviendront ses amis quand elle les fréquentera plus longuement. Mais c'est Pierre Barbeau, c'est Risset. Jean-Claude Risset, c'est Xenakis, c'est tous ces gens-là. Et c'est eux qui lui donnent l'idée et l'envie d'utiliser un ordinateur, parce qu'ils l'ont fait 10 ans plus tôt. C'est toute l'équipe de Schaeffer à l'ERTF. Et eux ont utilisé les ordinateurs pour composer. Et elle s'est dit, pourquoi pas essayer avec le monde plastique de faire quelque chose. Donc ça, il y a un très très beau texte de Jean-Claude Risset dans le catalogue qu'on a refait, le catalogue 100, qui accompagnait l'expo de Pompidou.
Le chiffre, donc.
Qui explique vraiment ces années-là, comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est construit. Et c'est fondamental, ouais, la musique. Pour
et là, à Paris, on a effectivement une vraie avant-garde après-guerre autour de la musique, puisqu'on va voir l'IRCAM après. Enfin, on a la continuité, on a un vrai développement. Il y a Darmstadt et Paris, quoi.
Il y a Paris, et puis il y a aux États-Unis, il y a Cage et quelques autres. Et elle, ce qu'elle aimait beaucoup, elle aimait beaucoup la musique classique en général, mais elle aimait beaucoup aussi les Américains, les Steve Reich, Philip Glass. Les gens comme ça, la musique sérielle, minimaliste, ça c'était son truc. Ouais.
Et donc, je disais qu'elle avait travaillé sur l'écriture de sa mère, donc très raisonnable en début de ligne et hystérique en fin de ligne. Elle a travaillé sur le carré, sur le tu ne peux pas faire ça, sur comment elle pouvait transgresser
le déchirement.
Le déchirement du carré.
Tu ne peux pas déconstruire.
Ça vient un petit peu de Nathalie Sarraute aussi. Elle lisait beaucoup et il y a un très beau texte de Sarraute sur le déchirement.
Tu ne peux pas faire ça, c'est Sarraute.
Voilà,
D'un roman
exactement.
De Sarraute.
Tout à fait.
Et donc, il y a M comme Malevitch.
M comme Morlaix, Malevitch. La beauté de cette lettre, qui est en fait un carré, dans lequel on enlève un petit triangle au-dessus et deux autres en dessous, en fait. Et ça permet de ne pas avoir le vocabulaire, justement, de l'art concret construit, les carrés, les ronds, les rectangles, et de dériver avec ces lettres, mais les lettres dénuées de toute sémantique, de toute signification. Et ça y a beaucoup plus d'utiliser des L, des U, des T, des M. Et après, c'était un jeu, c'était vraiment de l'humour de dire M comme Malevitch, M comme... Mais c'est les pères tutélaires, de toute façon, les Mondrian, Malevitch, qu'est-ce qu'on a ? Il y en a plein.
Comment il s'appelle l'Argentin là, qui vit à Paris, qui existe toujours, un disciple de... Disciple de Vasarely, qui fait toute une entreprise avec tous ses fils, qui est chez Templon, qui fait de l'art abstrait, enfin je pense. Il n'y a jamais chez Vera d'aspect décoratif. Pas vu en tout cas.
Non,
pas imaginer un développement.
Elle aime pas ça. Quand ça apparaît, elle jette.
C'est ça.
En fait, ce qu'elle aimait pas non plus, c'était l'art cinétique. Elle laissait ça à son copain Vasarely. Et elle, dès que c'est un petit peu cinétique, que ça moire un peu même, qu'à l'intersection des carrés, il y a un petit peu de mouvement, elle aimait pas beaucoup ça. Donc elle s'est toujours débrouillée pour ne pas aller sur ce terrain-là. Mais une chose très drôle aussi c'est, dans cette famille d'artistes, c'est qu'ils se répartissaient les territoires. Elle n'a jamais fait du Morlaix, elle n'a jamais fait du Kniffer, elle n'a jamais fait du Nemours, mais elle les aimait beaucoup. Donc chacun se définissait finalement une famille d'œuvres, de formes, et se répartissait les choses. Et c'est étonnant ce respect entre cette génération d'artistes et la façon dont ils ne sont jamais allés sur le territoire du copain, à partir du moment où ils considéraient que c'était lui qui exploitait ces familles de formes. Je ne sais pas si ça a été pensé, ça, encore, mais comme les arbres qui poussent en se laissant de la place.
Et donc, les œuvres sont très nombreuses.
Il y a beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup, parce qu'elle a énormément travaillé. Je ne sais plus quel artiste hongrois y avait dit, très jeune, pas un jour sans une ligne, mais elle s'y est pliée. Donc quand on travaille plus de 70 ans tous les jours, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de dessins. Et puis parfois les variations informatiques sont énormes, ça peut être énorme. Et puis à la fin de sa vie, elle était très productive parce qu'elle avait plein d'assistants.
Ah oui, c'est ça.
Elle avait au moins deux assistants. Un qui faisait des grandes toiles en Allemagne qui s'appelle Axel Rolfs, et puis un qui travaillait avec elle à Paris qui s'appelle Jean Brault. Tous les deux sont artistes aussi. Et puis elle aimait bien utiliser les gens pour faire. Moi, je faisais beaucoup d'installations. J'ai produit beaucoup d'installations avec elle.
Tu as participé aussi.
Donc j'ai fait peut-être une petite dizaine d'installations aussi pour elle. Donc elle nous répartissait les tâches à tous ses amis et on travaillait tous un peu pour elle. Ouais.
Bon, mais on va écouter un petit morceau de musique et on y revient.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, qui est ce musicien que nous venons d'entendre ?
Pierre Barbeau, bien entendu. Tout le monde aura reconnu ce morceau ultra célèbre.
Ce chef-d'œuvre, nous.
Donc, grand ami de Vera et grand, grand pionnier de l'informatique musicale en France. Il a été finalement peu connu pour ça, sauf dans le milieu spécialisé, mais il a fait beaucoup de musique de film aussi. Donc, vraiment, il faudra en parler très longuement. Et puis, moi, je ne suis pas du tout spécialisé de musique.
Mais
très, 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 très important. Et Vera a fait finalement le pont entre des gens comme Barbeau, les grands pionniers, et puis des gens plus récents, des musiciens qui utilisent aussi les algorithmes, les systèmes dans la musique. Je pense à Molène Dalibert, qui est un magnifique compositeur, pianiste, à qui Vera a dédié d'ailleurs des œuvres, et lui a dédié des œuvres musicales à Vera. Donc on trouve plus facilement la musique de Molène Dalibert que celle de Pierre Barbeau sur nos réseaux.
Et donc l'exposition à Dunkerque s'appelle « Impressions d'atelier, Vera Molnar et les éditions Fanal ».
Exactement.
Que sont les éditions Fanal ?
Alors les éditions Fanal, c'est un atelier de gravure et sérigraphie qui est né en 1966 en Suisse, à Bâle. L'initiative donc d'une peintre, Marie-Thérèse Vacossin, peintre française, qui s'est installée en Suisse avec un compagnon d'études, Marcel Mazard. À l'origine, plutôt un lieu, c'était un atelier un peu collectif où on donnait des cours de peinture, des cours de poterie. Il y avait déjà une dimension un peu d'enseignement, de transmission. Puis Marcel Mazard choisit d'installer une presse de lithographie à l'atelier. Et là, c'est le début donc, de l'aventure de l'estampe au sein de l'atelier Fanal, qui commence donc avec d'abord la lithographie, mais qui n'a pas duré très longtemps, puis la gravure, donc plutôt taille douce, aquatinte, eau forte, et la sérigraphie, qui va vraiment devenir la pratique un peu de prédilection de cet atelier. Alors la caractéristique, c'est qu'ils sont un peu dans influence en fait abstraction géométrique. Marie-Thérèse Vacossin, comme elle le dit, elle avait eu des études un peu poussiéreuses à Paris. Elle avait suivi, elle était aussi dans les courants après de Robert Lapoujade, abstraction lyrique, etc. Et puis avec l'installation à Bâle en Suisse, le début de l'atelier Fanal, il y a une rencontre qui est vraiment fondatrice pour l'atelier Fanal et son orientation future. C'est avec Jean Gorin, donc Jean Gorin qui est bon, figure plutôt art concret, enfin très lié au salon des réalités nouvelles, abstraction, enfin voilà, grand groupe de l'époque. Et donc ça donne directement en fait une inflexion fanale vers l'abstraction géométrique, ce qui est quand même très singulier en fait dans le paysage de l'estampe en fait de la seconde moitié 20e, le fait d'avoir vraiment de la sérigraphie au service de l'abstraction géométrique.
Parce que c'est de la sérigraphie.
Ouais, c'est principalement de la sérigraphie. Ils poursuivent quand même l'activité de graveur.
Mais c'est pour ça que c'est étrange.
Bah, ça n'avait pas été mis, en tout cas, ouais. Au service de ce courant-là, de cette expression.
Max Bill, il n'avait pas fait de sérigraphie avant.
Max Bill, c'est une bonne. En tout cas, pas. Il s'était pas spécialisé de cette manière-là. Ouais. Et ce qui se fait en. Après, ce qui se développe aussi à Paris, ça va être des ateliers, on en parlait tout à l'heure, mais Arcaille ou ce genre d'ateliers de sérigraphie aussi. Mais, y a aussi le choix des artistes qui fait la singularité de l'atelier. C'est Marie-Thérèse qui fonctionne au coup de cœur, donc elle va rencontrer des artistes sur des foires, découvrir leurs œuvres à travers des reproductions dans des magazines, comme c'est le cas avec Vera Molnar. Elle tombe sur une œuvre dans un magazine d'art. Elle se dit, mais c'est incroyable, je veux rencontrer cet artiste. Et elle envoie ce qu'elle dit être un émissaire, qui était son grand collègue, compagnon d'atelier, André Schweitzer, qui parlait l'allemand. Débaucher, on va dire, Vera Molnar, qui était à une foire à Kassel. Et Vera Molnar, le premier appel à Marie-Thérèse Vacossin, lui a dit « Alors, t'as envoyé quelqu'un pour me draguer ?» Donc, parce qu'elle avait très envie de travailler avec elle, et ça se fait souvent par des rapprochements, des coïncidences, des hasards. Et bah, c'est finalement aussi tout un cercle des amis de Vera, en fait, qui vont graviter autour de Fanal. Morlaix, rencontré par l'intermédiaire de Jean Gorin. Aurélie Nemours, sur un stand de la galerie Denise René. Et puis, beaucoup d'artistes internationaux. Cruz Diaz, qui était aussi installé en Europe, mais beaucoup d'Allemands venus des États-Unis aussi. Donc ça a fédéré, je crois qu'au total, on en reparlait avec Marie-Thérèse et Daniel Harder, qui s'occupait de la gestion de l'atelier. Ça a fédéré 70-80 artistes des années 70 à nos jours.
Puisque donc c'est 50 ans de...
C'est ça. Et parce qu'au moment de la... On a eu en fait cette idée d'exposition, je vais peut-être revenir sur le fond en fait des stands de Vera Molnar, au moment où on a eu cette idée aussi de s'intéresser à la relation, parce que l'exposition porte vraiment sur cette collaboration artistique entre cet artiste Vera Molnar et l'atelier de sérigraphie Fanal, puisqu'ils ont travaillé ensemble jusqu'à 2023, donc un an avant la mort de Vera. Mais à l'origine... Je perds mon fil.
D'où c'est parti
L'INHA. C'est ça. Et en fait, exactement. C'est
donc
ça.
L'INHA, c'est l'Institut National c'est d'Histoire ça. De l'Art.
Et pour finir ce fil que je retrouve, en fait, on est arrivé avec ce projet en se disant qu'il y avait matière, que ça n'avait jamais été exploré, ce travail, en fait, cette collaboration, cette amitié. Et Fanal nous a appris un peu en cours de processus, de projet d'exposition, que l'aventure s'arrêtait là pour eux, qu'ils fermaient leurs portes. Et donc, ça a été une sorte de double hommage à Vera Molnar, à cette collaboration, à l'atelier Fanal, et donc qui a fermé là très récemment cette année. Pour partir, ouais, repartir peut-être des estampes du fond, en fait, le point de départ de l'exposition, c'est un don qu'a fait l'artiste, donc Vera Molnar, à l'Institut National d'Histoire de l'Art en 2022. Puisque l'Institut National d'Histoire de l'Art, donc à la fois établissement donc de recherche qui fédère le domaine de la recherche dans l'histoire de l'art, un centre de documentation, une bibliothèque aussi de référence dans ce domaine, a aussi des collections patrimoniales prestigieuses qui proviennent de plus anciennes institutions, notamment la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, fondée par Jacques Doucet au début du XXe siècle et qui avait créé dès l'origine un cabinet d'estampes modernes. Donc qu'on poursuit encore aujourd'hui, et avec dès l'origine, dès le début du XXe siècle, des orientations très précises qui distinguaient notamment de la Bibliothèque nationale, notamment le fait de s'intéresser aux artistes d'origine étrangère, de s'intéresser à toutes les techniques un peu inédites de l'estampe, et illustrer tout ce qui était le processus de création d'une estampe, c'est-à-dire de la matrice, il voulait aussi lancer une collection de plaques gravées, jusqu'à l'épreuve définitive, en passant par tous les états préparatoires. Et donc ça, c'est des principes en fait fondateurs du cabinet, qui fait maintenant partie des collections patrimoniales de l'INHA. Et l'œuvre de Vera Molnar, l'œuvre imprimée, en fait, s'intégrait complètement dans ces orientations de fond. Et donc on souhaitait mettre en fait cet ensemble. Donc on conserve en fait plus de 300 œuvres imprimées de Vera Molnar. On en présente seulement une quarantaine là pour l'exposition à Dunkerque. Et l'idée donc c'était de trouver voilà une manière de le mettre en valeur. Ce sujet était suffisamment inédit pour le traiter. Et puis le lieu, donc là c'était parti plutôt d'une amitié, d'une rencontre entre Vincent et Anna Alkema.
Alors ça, pour le lac. Oui, c'était quand Vera a obtenu le prix Auer il y a quelques années, l'exposition qui préfigurait le prix et qui montrait les artistes était sous le commissariat de Anna Alkema qui travaillait chez Auer. Et après, elle a migré donc à Dunkerque où maintenant elle est sous-directrice du musée et elle s'occupe du cabinet d'art graphique. Et donc comme on avait travaillé ensemble, que je savais qu'elle aimait l'œuvre, que Vera n'avait jamais été montrée beaucoup dans le Nord, à différence d'autres. Ça s'est fait assez naturellement.
Ouais.
Et puis la volonté aussi du directeur général de l'INHA, Eric de Chasset, et du directeur de la bibliothèque, Jérôme Messier, qui ont appuyé la chose. Donc, et Sophie Verlop, la directrice des musées là-bas. Donc tout s'est fait en
générique
bonne intelligence.
Générique de remerciements.
Non, mais on s'est tous rencontrés envie de le faire. Donc
ça avait du sens aussi en lien avec les collections du Lac, qui est quand même un musée de référence d'art contemporain des années 1950 à nos jours, qui a beaucoup d'estampes d'œuvres plus larges. Géométrique, enfin de l'abstraction géométrique. Et puis il y a toute une histoire quand même de l'exposition de l'art abstrait géométrique dans le Nord. Enfin, je veux dire, il y a par exemple peut-être une exposition précédente ou qui mettait déjà en valeur les éditions Fanal. Une des seules, ça a été à Valenciennes, à la bibliothèque de Valenciennes, où il y avait la donation André Schweitzer, donc qui était ce collaborateur de Fanal. Il y a pas mal de lieux aussi.
Avec un catalogue qui est trouvable, qui est très bien.
Ouais. Justement, sur l'art construit, parce que là aussi, on s'est trouvé confronté à la question un peu des noms, des titres, des appellations. Parce qu'en Suisse, il y a cette espèce de poids de l'art concret. Les concrets, pas mal sont passés à Fanal aussi. Ouais. Verena Lovensberg,
il y avait des Zurichois plus qu'autre chose.
C'est ça. Et Fanal s'est plutôt positionné donc du côté de l'art construit, donc avec toujours cette idée, en termes de répertoire, c'est le même, un vocabulaire abstrait, géométrique, cette idée de système, de construction, etc., mais avec quand même une part un peu plus, je pense, de sensibilité aussi, ou de... Par exemple, Marie-Thérèse est très attentive à tout ce qu'elle considère comme les départs émotionnels des œuvres, savoir que ça va partir d'un élément d'observation du quotidien. Donc il n'y a pas une considération hyper figée du réel et de l'art. Les deux se mêlent et c'est assez touchant. Ouais.
Et donc j'ai regardé le site des gens avec qui je travaillais, qui ont travaillé pour Fanal.
C'est ça.
Et Christian Savios, qui est un de mes amis, dit qu'elle lui a retourné la tête. Et donc, sur la remarque de 97 ans, quand il est rentré là-bas, elle en avait 80. ça devait faire il y a 20 ans
maintenant. Ouais,
si
c'est
pas,
ça.
Si parce pas que 30.
Lui... Ouais. Donc Christ... ouais.
Burgin, c'est en 87 et Christian Savio, c'est dans les années 90. Donc c'était il y a 30 ans, elle était encore plus jeune, disons, objectivement.
Oui, et lui avait pris, c'est ça, avait pris la place du coup de celui qui l'avait formé,
Burgin,
de Daniel Burgin. Ouais. Et c'était les deux grands sérigraphes en fait de Fanal qui ont accompagné aussi tous les projets de Vera. Parce que ouais, au total.
Et c'est très amusant parce que lui, dans ses... Moi, j'ai fait une exposition avec lui, par exemple, sur les sectes, où on a été censuré parce qu'il y avait des bouteilles de pisse avec... il est très punk, donc avec un affichage sur les bouteilles, etc. Il y a le côté provocation toujours qui revient et tout, qu'on n'identifie pas à Fanal. Donc, mais je pense qu'il aime beaucoup le métier. C'est des choses, c'est le savoir-faire qui fait la noblesse de la chose.
Exactement. Et c'est ce qui distingue aussi Fanal. Je pense que ça a été une marque de fabrique dès le début aussi, ce côté vraiment lien entre l'artisan et l'artiste. Oui. Le fait vraiment de... C'était vraiment une ligne fondatrice de penser en fait qu'on fait l'œuvre jusqu'au bout.
Mettre la barre très haut dans les finalisations, tout
ça. Pas seulement déléguer comme ça se faisait beaucoup dans le monde de l'édition, de l'estampe, confier un projet à un technicien qui s'en occupera. Là, il y avait vraiment cette idée de construire ensemble des projets qui peuvent parfois se développer. Nous, on se perdait dans la chronologie de Vera, des projets qui se font sur 4 ans où elle revient sur... un ajustement de teinte, etc. Enfin, c'est des projets très longs, mais c'est du temps, du coup, très vivant, très humain, beaucoup d'amitié aussi, des relations vraiment fraternelles.
C'est une sorte de coopérative d'artistes.
C'est ça, une communauté
déjà,
d'artistes.
C'est dirigé par une artiste, donc
exactement,
ça change tout.
Ouais.
Et puis, l'atelier, il y a une cuisine dedans avec une table où on a été reçus, on a mangé chez eux et c'était comme ça pour tout le monde. Dès que quelqu'un arrivait, il y avait des pâtes. Et nous, on a mangé les pâtes chez Fanal aussi à chaque fois qu'on y allait. Et pour Vera, c'était le paradis. Elle disait, chez Fanal, on ne parle que de couleurs, que de papier.
Il n'y a pas la notion d'être
pressé. Pas de notion
pressé.
D'argent.
Ouais.
On n'est jamais pressé. Et en plus, il y a
des pâtes pour tout le monde.
Donc, c'était le paradis. Le paradis.
Oui, c'est vraiment l'expression qui revient le plus quand elle parle de Fanal, c'était le paradis. Mais justement, sur cette petite anecdote de bouche, moi, ça m'a beaucoup amusé de retrouver dans l'autre. Je parlais de l'exposition tout à l'heure de Valenciennes qui présentait la donation André Schweitzer là, en 2013. Mais auparavant, une grosse exposition qui avait peut-être participé à faire connaître un peu plus Fanal, c'était en 98 à Pontoise. Ils célébraient leurs 30 ans d'atelier, 20 ans d'édition. Ça, on y reviendra aussi peut-être sur la distinction entre les deux. Et justement, dans une sorte de grand panorama de toutes les personnes qui contribuent à l'atelier Fanal, on a quand même à la fin Bluette Hofer qui s'occupe de la gastronomie. Donc il y a une part qui est quand même très importante. Exactement. Non, mais il y a vraiment cette part de convivialité, même des personnes qui pouvaient paraître plus austères. Enfin, moi, je retrouvais dans les anecdotes des entretiens avec Marie-Thérèse, Aurélie Nemours, elle passe 15 jours là-bas pour faire ses albums. Et bah justement, je rebondis peut-être sur ça, parce qu'il y a le côté édition Fanal, en fait. Ils sont à l'origine vraiment spécialisés du côté livre d'art, portfolio, qu'ils ont arrêté par la suite, et ils sont plus consacrés à l'estampe en feuille. Mais pendant un temps, c'était vraiment... C'est ce qui leur a permis, en fait, d'exposer... Saga, Art Basel, enfin voilà, ils étaient dans tous les grands salons vraiment d'éditeurs, mais avec ce côté d'éditeur façonneur, artisan, vraiment, pas seulement marchand. Il y a vraiment tout le processus de la création à la commercialisation.
C'est eux qui ont convaincu Morlaix de faire des livres. En fait,
aussi,
il n'avait jamais fait de livre.
Avec un...
Et il a fait deux livres exceptionnels.
Et le deuxième avec l'avertissement.
Un très traditionnel pour eux, qu'ils adorent, qui est un des plus beaux livres qu'ils aient fait.
Sur la fragmentation, la gravure et l'art de ne rien dire.
Voilà.
Ouais, il est trop beau.
Tout est dit dans le titre que tu évoques. Et puis le deuxième plus déconnant. Et puis, il y a... Une artiste qui est déviante par rapport à l'obédience abstraite géométrique dans cette clique, c'est Meret Oppenheim, qu'ils ont adoré et qui a beaucoup travaillé avec eux.
Bah, qui a fait deux livres.
Et c'est là qu'on
mais
voit...
Mais qui devait habiter en Suisse, il y avait pas mal de sculptures en Suisse d'elle.
Oui, parce que...
Je vois une chaussure, une petite cuillère avec de la fourrure dessus, Berne, des choses.
Elle est longtemps venue.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Elle est longtemps venue, jusqu'à temps qu'il y ait des agents, des trucs compliqués qui bloquent les choses, mais c'était vraiment...
Parce qu'elle avait une grosse cote.
Voilà, ça devenait compliqué à cause de son aura, de sa cote.
Mais l'anecdote un peu dramatique, c'est qu'elle est quand même décédée le soir du vernissage, du livre Caroline. Ils ont fait deux collaborations, Fanal et Merit Oppenheim. Le premier, Zanzibar. Et le deuxième, c'était Caroline, qui a eu le prix en plus des plus beaux livres suisses en 85. Et le jour du vernissage, elle est décédée le soir même. Donc, ça, c'est une courte aventure, mais qui s'est terminée un peu brièvement. Mais donc, oui, il y a beaucoup de liens, du coup, dans toute cette communauté d'artistes aussi, entre Vera, des proches, il y a Morlaix, il y a Nemours,
il y a Kniffer,
il y a Krusdiez, c'est ça, c'est des...
Krusdiez travaillait là-bas, il a passé des semaines, et ça, c'est le gros point commun de Krusdiez aussi avec Marie-Thérèse Vacossin, c'est que c'est quelqu'un qui adore la couleur. Quand on va dans son atelier, mais il y a 50 pots de crayons, de 20 crayons, enfin, c'est un amour pour pour le ton juste, la couleur juste.
Ouais, et puis des titres, pas possible aussi.
Ils ont partagé ça, ils ont passé
des
heures.
Et chez Vera Molnar, il y avait aussi quelque chose à dire sur la couleur avec le rouge et le noir. Gros travail sur le rouge.
Le rouge, beaucoup.
Avec des variétés à l'infini.
Ouais.
Des listes, par exemple, de façon de nommer le rouge.
Le rouge, ce texte est magnifique. Et le rouge, on le retrouve beaucoup. Ça a été des grandes discussions avec Marie-Thérèse aussi. Enfin, mais Marie-Thérèse a vraiment cette acuité et cet œil vraiment d'artiste peintre, en fait. Donc elle l'a beaucoup guidée quand on déambulait un peu devant les œuvres de Vera avec Marie-Thérèse, parce qu'on a eu la chance du coup d'être accompagnée pour tout ce parcours d'expo par vraiment cette fondatrice de l'atelier Fanal, Marie-Thérèse Vacossin, et Daniel Harder, qui s'occupe de la gestion de l'atelier. Et Marie-Thérèse se souvenait d'avoir saupoudré de carmin avec une pointe de doré qui permet d'avoir... Enfin voilà, c'est presque... un art de chimiste, mais non, c'est...
D'alchimiste, même.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, quand on débarque dans l'exposition, qu'est-ce qu'on voit? Comment ça se passe de salle en salle?
Et
comment
coup,
ça a été construit?
On a préféré, du coup, plutôt thématiser le propos plutôt que de le voir de manière chronologique, parce que, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de cohérence. Il y a des projets qui font... Il y a des allers-retours, des choses qui prennent du temps, d'autres qui sont très rapides. Il y a beaucoup aussi des choses qu'elle avait réalisées en peinture, qu'elle va vouloir transcrire aussi en estampes. Donc même sur les datations, c'est un peu compliqué, donc ça n'aurait pas été hyper pertinent. Et donc il y a quelques grands ensembles, une première vitrine où on a vraiment commencé sur cet axe de l'histoire d'une amitié, une collaboration et une amitié, avec beaucoup de documents d'archives qui ont été prêtés par Fanal, des premières lettres qui s'envoient, des petits mots que laisse Vera avec des cœurs, sa paire de lunettes avec marqué Vera dans chacun des verres, des photos de Vera aussi à l'atelier. On montre la première estampe aussi qu'elle réalise ensemble, donc en 91, et puis après c'est plutôt un développement autour de grands thèmes comme par exemple il y avait une recherche plutôt technique à laquelle Vera était très attachée dans le domaine de la gravure, c'était tout ce qui est les effets de superposition, par exemple comment les formes interagissent en étant juste l'une sur l'autre mais en voyant l'autre forme en transparence. Parallèlement à ça, on montre aussi toutes les recherches qu'elle a menées plutôt sur le côté des aplats. Donc c'est vraiment deux lignes qui s'opposent. Il y a un développement sur les lignes aussi, la manière dont elle a fait des variations en gravure, en sérigraphie, les modèles et les improvisations. Donc là, on en parlait tout à l'heure aussi sur toutes les séries des lettres, les N, les M. Il y a aussi ça, pour ses 85 ans, elle représente le 85 avec juste un angle et deux formes circulaires pour faire un 8 et un 5. Toute une section consacrée à la couleur aussi, assez belle, avec des couleurs très vives, certaines très fluo. On avait peur qu'elles écrasent les autres, mais finalement ça cohabite assez bien. Une dernière section autour justement du déchirement, de l'intersection, la manière dont... Les formes aussi vibrent entre elles et laissent toujours une sorte de petit ray de lumière qui fait référence aussi à la dernière série que Vera réalise avec l'atelier Fanal, donc qui s'appelle Triangle. et qui part, là aussi, ces petits chocs émotionnels du début, de l'observation qu'elle fait du petit rayon de lumière qui passe sous la porte quand on est couché dans le lit. Et donc, elle imagine une série de déclinaisons de triangles à partir de ça. Donc, il y a toute une section autour des déchirements, intersections. Et à la fin aussi, on interrogeait la pratique de l'estampe en volume. Elle a fait des collages aussi sur des supports un peu plus épais. Elle a travaillé aussi le plexiglas avec l'atelier Fanal. Une petite vitrine qui est consacrée aussi au processus de création, parce qu'on y tient, nous aussi c'est dans l'ADN Yanacha, de voir comment ils s'écrivent pour trouver, elle a plusieurs révélations et finalement ça prend une autre forme, et puis ça donne un très beau portfolio qui fait aussi partie des premiers projets, 4 carrés 4 modes, qui est magnifique, au Forte et Aquatinte. Et on a consacré quand même, pour finir, une sorte de pas de côté final aux amis, le foyer Fanal en fait, les amis, les proches, donc avec deux estampes de rythme du millimètre d'Aurélie Nemours, une de Kniffer, et une de, et le petit angle de Morlaix qui a posé bien des problèmes, qui est une œuvre à protocole en fait, où il faut... On présente l'œuvre presque...
C'est un angle droit.
C'est un angle droit, donc il faut que l'angle soit droit par rapport au mur, sauf que du coup, ça fait pencher le cadre. Donc,
mais
c'est...
il est traviole, voilà.
Voilà,
c'est un angle droit de traviole, mais il faut rétablir le...
Ouais, donc c'est une œuvre à protocole qui a posé... c'était assez amusant au moment de l'accrochage, ça a pris du temps, mais il est très beau. Donc voilà, dans l'ensemble, on a pensé ce parcours de cette manière-là, et en fait, qui permet vraiment d'avoir un aperçu... de toute la... Ce que j'avais pas précisé en introduction, mais ça peut se dire en conclusion, c'est que Vera avait jamais pratiqué en fait l'estampe avant de rencontrer Fanal. C'est vraiment... Il y avait eu quelques linogravures de ce que tu disais.
De lino aux Beaux-Arts.
De lino aux Beaux-Arts de Budapest. Et donc elle a vraiment découvert l'estampe avec Fanal, avec une passion qui s'est plus dirigée du côté de la sérigraphie, je pense, justement pour les couleurs. Et donc voilà, donc ça permet en fait de brasser un peu toute cette aventure partagée avec cette division plus thématique.
Tu les as bien décrits, et en t'écoutant, je repensais à la phrase d'Yves tout à l'heure qui évoquait la poésie dans l'art abstrait et le fait que chez Vera, il n'y a pas, la froideur. Et je regardais les titres, et en fait, ça dit beaucoup parce qu'elle les pensait justement pour exprimer quelque chose, même dans la géométrie. Et on voit les titres ballotté, fission, en oblique, brèche, dans le brouillard. C'est très évocateur de son travail qui, en partant d'une structure. Très, très figé au départ, très, très mathématique, très géométrique, va prendre un coup d'air, va prendre une petite, un petit élan comme ça qui la transforme avec un degré de hasard, comme elle évoquait. Ouais. Elle se définissait souvent comme son autoportrait, elle disait c'est un degré de désordre dans une structure stable, et puis vers la fin de sa vie, elle disait « Oh là, je deviens de plus en plus anarchiste et anarcho-constructiviste », elle aimait bien ce terme. Alors maintenant, je suis à 2-3% de désordre. Donc voilà. Mais on retrouve en fait toute son œuvre au sein de cette exposition. C'est-à-dire que dans les estampes, on a toutes les familles. On a les lettres massives, on a les écritures de ma mère que vous avez évoquées, on a les carrés, les rectangles, et puis on a cette subtilité qui est vraiment, je crois, la marque de Vera, c'est l'inframince, la petite chose, la brèche, l'interstice. Le petit retournement, ou une chose qui paraît tellement presque enfantine, un jeu qui a l'air évident, mais qui demande des dizaines d'années de pratique pour le maîtriser, d'un renversement, d'un retournement, d'une superposition. Elle travaille beaucoup par superposition.
Exactement,
et ce qui est assez génial, justement, chez Fanal, c'est qu'elle est parvenue, avec la sérigraphie, qui n'est pourtant pas fait pour, à donner cette impression de superposition, parce que les couleurs se renforcent, sont plus fortes quand elles se rencontrent. Donc, entre les interstices, les superpositions, ce sont des effets que finalement, peu d'artistes tentent. C'est pour ça qu'il faut aller voir cette exposition.
Exactement.
Écoutez, merci. Je mettrai tous les renseignements sur le lieu, sur la page du podcast. Je suis en train de chercher. Est-ce que vous voulez donner des renseignements pratiques sur le lieu, où ça a lieu ?
Donc c'est au LAC, au lieu d'art et action contemporaine à Dunkerque. Et l'exposition est ouverte jusqu'au 19 octobre. Je précise d'ailleurs, si on peut mettre aussi en lien, que l'atelier Fanal, donc, qui a fermé en avril, comme je l'ai dit, vend encore quelques éditions. Donc si des amateurs sont parmi les auditeurs, vous pouvez aller sur le site de Fanal et voir quelques éditions rares encore à vendre.
Voilà. Je ne sais pas si dans le public qui écoute Allegre FM, on a beaucoup de collectionneurs.
Et pourquoi pas
Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.